Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Vous avez peut-être entendu parler de la pièce de théâtre « Djihad », jouée en ce moment à Paris au théâtre Le Pic. Elle raconte le périple de trois jeunes Bruxellois, Ben, Reda et Ismaël, qui veulent partir se battre en Syrie. L'histoire, tragicomique, tourne en dérision l'obscurantisme. Cette pièce avait été créée 2 semaines avant l'attentat de Charlie Hebdo en 2015. Pour l'écrire, son auteur, le Belge Ismaël Saïdi, s'est inspiré de sa vie et de ses propres erreurs. Ismaël Saïdi témoigne aujourd'hui dans Code Source, au micro de Claudia Prolongeau.
Ismaël Saïdi, 43 ans, m'attend dans un café du 18e arrondissement de Paris, où il a ses habitudes. Il porte un élégant col roulé bleu, est souriant, et commande un café dès que je m'installe avec lui. Puis il me raconte son enfance.
Moi, j'ai grandi dans une famille, alors on était 4 frères et une sœur, donc une famille nombreuse quand même, mais modeste, classique. Ma mère travaillait pas, mon père avait un boulot. Il a toujours été chauffeur de taxi, mais d'abord pour le compte de quelqu'un, puis très vite à son compte. Donc voilà, c'était pas un pauvre, mais c'était classe moyenne, même supérieure à un moment donné. Où mes parents sont arrivés du Maroc fin des années 60, et moi je suis né en 76, dans un arrondissement de Bruxelles qui s'appelle Schaerbeek. Et c'est là que j'ai grandi, au milieu de l'Europe. Je suis parti en vacances tous les ans, j'ai manqué strictement de rien. On a toujours eu tout ce qu'on voulait, tout a été super.
Malgré une enfance plutôt heureuse et peu d'ombre noire au tableau, l'adolescence est comme presque toujours plus difficile. Ismaël Saïdi a du mal à s'imaginer un avenir, se trouve moche, ressent un certain mal-être.
Être adolescent, c'est déjà un conflit interne. Être adolescent issu de l'immigration, ben c'est un double conflit, parce que du coup, tout doucement, vous commencez à vous détacher de la culture d'origine, parce que la culture dans laquelle vous avez baigné prend le pas. Et puis en plus, avec les différences religieuses, la chute de confession musulmane, voilà, il y a eu une espèce de période, et je pense que c'est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui les ruptures identitaires. Et il y a ce moment de l'adolescence où on est en train de se créer en termes d'identité, et c'est là qu'une rupture peut se faire. Et moi, j'ai vécu ça assez, assez douloureusement à l'époque. Ouais. Ben, c'est plus facile d'être en colère contre un autre, contre quelqu'un, un système, quelque chose, n'importe quoi. Et on y va, hein. La colonisation, et ils en veulent à l'islam, et depuis toujours, depuis que l'islam est arrivé, on veut lui faire du mal, etc. Et puis effectivement, comme l'islam est né d'une confrontation entre un homme, donc Mahomet, et des tribus autour de lui, on peut trouver dans les textes originels cette victimisation, qui à la rigueur était normale pour lui à l'époque. On dit voilà, ils m'aiment pas, moi je vais leur dire que Dieu existe, mais personne ne m'écoute, ils me veulent du mal, etc. Sauf qu'on a sanctifié un texte qui n'aurait pas dû être sanctifié, qui aurait dû rester un texte qui raconte une histoire du 7e siècle, et on essaye de la transposer sur nos jours, en disant regardez, ils ne nous aiment pas, c'était déjà écrit, jusqu'à la fin des temps, ils ne nous aimeront pas, etc. Donc du coup, ça vous permet à vous de dire ah, s'il n'y a rien qui marche pour moi, finalement, il y a une raison. C'est qu'ils ne nous aiment pas.
À ces convictions qu'il est rejeté, s'ajoutent chez Ismaël Saïdi des questionnements sur le monde et son fonctionnement.
Savoir qui vous êtes, savoir pourquoi vous êtes là, c'est quoi l'autre, c'est quoi moi, est-ce qu'il y a une transcendance qui existe, est-ce qu'il y a un Dieu qui existe, s'il existe, qui sont les bons, qui sont les méchants, enfin, toutes ces questions qui arrivent et qui, malheureusement, si on n'arrive pas à trouver une réponse par soi-même, À ce moment-là, ben, y a d'autres personnes qui viennent vous donner la réponse qui les arrange. Il y avait des groupes de gens qui faisaient de la prédication devant les portes des mosquées ou dans les quartiers. Et du coup, ces gens venaient, et ils avaient ce côté un peu bienveillant, propre sur eux, éduqué. Et puis finalement, vous aviez cette impression qu'ils vous tendaient la main. Et vous pouviez vous laisser aller un peu, comme de la drogue. Ça peut aller très vite. Quand vous posez ce genre de questions-là, qu'on n'avait aucune réponse, et que des gens vous donnent les bonnes réponses, celles qui vous font du bien, celles qui vous font vous sentir comme faisant partie de quelque chose, je crois que c'était ça vraiment, ma recherche. C'était appartenir. À quoi j'appartiens?
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour vous précisément?
J'ai failli aller dans la marge.
Cette expression, Ismaël Saïdi la préfère au terme de radicalisation, qui lui semble très réducteur. Alors qu'il s'accroche de plus en plus à la religion, l'adolescent commence à se sentir de mieux en mieux.
Je pense que, surtout quand on est ado, on a besoin de règles. Et plus il y a de règles, plus on a l'impression que c'est structuré. Et donc ces règles-là, ben, commençaient par effectivement une séparation, ben, ne fût-ce que par la nourriture. Je ne mange pas la même chose que vous. Ce qui aurait été juste au départ, ne pas manger de porc, par exemple, devenait de plus en plus précis. Du halal, une certaine viande, tuer d'une certaine manière. On allait vers de la précision, en fait. Et plus c'était précis, plus ça semblait légitime. Ne pas dire bonjour en faisant la bise, à ne pas serrer les mains aux femmes. Et ces règles font du bien, réellement. On mange de telle manière, on rentre aux toilettes de telle manière, on prie 5 fois par jour, on fait toutes ces choses-là. Ça vous donne au minimum un but journalier, qui devient un but hebdomadaire, qui devient un but mensuel, et puis qui devient un but final. Et ça n'a rien à voir avec une religion, finalement. Vous, en tant qu'être humain, le fait de vous donner des règles, ça vous structure. Voilà, et parfois ça va bêtement à des règles de « faut que je me réveille à 7h30 pour aller au boulot ». Le jour où vous ne bossez plus, vous avez l'impression d'être perdu. Ben, c'est le même principe.
Pendant plus d'un an, Ismaël Saïdi respecte scrupuleusement ce que ses mentors religieux lui imposent. Et puis, petit à petit, quelques absurdités lui apparaissent.
On était dans les années 90, donc j'écoutais Goldman. Il était déjà au summum, on va dire, de sa carrière. Et je me débrouillais pour avoir des cassettes et j'aimais énormément. Et ça me parlait. J'étais un peu en décalage par rapport à tout ce quartier. C'était le début du rap. Donc écouter du rap, moi, c'était vraiment ça comme musique. Et puis un jour, on m'a dit, justement, au cours d'arabe, ce qu'on appelle l'école coranique, j'y allais le samedi matin et je suis arrivé avec une cassette. Et c'était Goldman, dans mon Walkman à l'époque. Il y a un des élèves là qui l'a vu, qui était furieux, qui l'a montré au prof et tout en disant que j'écoutais un juif. Et là, j'avais aucune notion de ce que ça voulait dire juif, en fait. J'étais vraiment aux antipodes, et j'ai pas trop compris le concept, et donc du coup on m'a expliqué que j'avais pas le droit de l'écouter parce qu'il était juif. Et là il y a une fissure qui a commencé à se faire.
D'aussi loin que je me souvienne, moi j'ai toujours aimé deux choses dans la vie, voilà. Deux choses. Le rock. Et Elvis, ben son nom sur la tombe, tu vois. Son nom, c'était pas Elvis Presley. Son vrai nom à lui, c'était Elvis Aaron Presley. T'as pourquoi c'est grave en fait? Je te parle de quoi? De Aaron, c'est quoi Aaron? C'est quoi Aaron? C'est un nom de juif! C'est vrai ça? Tous dans la mouche défendre d'un juif, allez, vas-y, tranquille! C'est grave, son sujet, je sais que c'est grave, ouais, mais c'est trop grave!
À un moment donné, vous vous dites, ben ça c'est juste pas possible en fait, donc du coup c'est pas possible, donc je vais devenir schizophrène. Et c'est ce qui vous pousse aussi à sortir du groupe en vous disant, ben non, ça marche pas. Voilà, c'est un peu comme une secte. Ces petites choses-là, qui encore une fois peuvent paraître anodines, qui peuvent paraître de l'ordre du détail, ça a été énorme. Ça a été, j'appelle toujours ça des espèces d'îles refuge au milieu d'un tsunami de haine. Et ouais, c'est des refuges, ouais. C'est des petites choses que vous refusez. Non, ça je peux pas. Pas écouter la musique, ça je peux pas. Ou ne pas serrer la main. Non, j'arrive pas. C'est tout doucement en fait.
Salut, à la prochaine.
Bisous.
À la semaine prochaine. Ouais.
Il y a une dame qui est ici, du Parisien.
Bonjour.
Salut. Moi je m'appelle Elmi Dridi. À l'origine c'était.
À chaque fois que la pièce est jouée en milieu scolaire, elle est suivie d'un débat entre les élèves et les comédiens dont Elmi fait partie.
Je me rappelle une fois, il y avait une fille qui est venue à la fin du spectacle, après le débat. Et pendant le débat, j'avais dit que le dessin n'était pas interdit, que même l'alcool, il y a beaucoup d'interprétations que ça n'a pas été interdit d'un coup, que c'était sur des étapes. Et elle est venue à la fin et elle m'a dit non, tout ce que vous avez dit, c'est faux. J'ai dit, est-ce que vous pouvez me prouver, argumenter ? Est-ce que vous avez lu le Coran ? Elle m'a dit non. Elle m'a dit, j'ai lu un peu en français. Je dis, moi, je l'ai lu en arabe. C'est ma langue maternelle. Je maîtrise cette langue. Alors, vous, comment vous pouvez en dire autant, en tout cas ? Et en fait, c'est une fille qui a été radicalisée par un jeune homme au Brésil, par Internet et tout. Et c'était particulièrement difficile à essayer de discuter avec elle. Ce jour-là, je pouvais même pas aller manger après la représentation. Je suis resté avec elle, essayer de débattre avec elle, essayer de lui apporter en tout cas des réponses pour éclairer un peu certaines choses dans sa tête, quoi.
Et vous pensez avoir réussi ?
Je ne sais pas. Après, j'espère en tout cas. Je pense que après cette représentation-là, on lui a mis le doute.
Parce qu'il a la foi comme toi et toi, Ismaël. Il a la foi, Jean. Il a le droit de faire son direct comme tout le monde. Voilà, c'est tout. Jean.
Débarrassé de ce qu'il qualifie de secte, Ismaël Saïdi se prend en main et se lance dans une voie inattendue.
Il y avait un pote qui me disait « Ouais, ils engagent chez les flics ». Alors c'était inimaginable parce qu'à l'époque, des gens d'origine étrangère, chez les flics, il n'y en avait pas. En général, on était plutôt dans l'autre camp. Et je lui dis « C'est pas possible, en plus moi, franchement, je suis pas très flic, tu vois, je suis plutôt à manifester, je ne suis pas chez les flics ». Puis c'était un pari, il m'a dit « Non, viens, on essaie ». Donc moi, j'ai essayé en me disant « Bah, je vais l'accompagner, faire les examens, on a fait les examens ». Et il a raté, j'ai réussi. Je suis rentré à la police, au départ sans trop d'idées, en me disant bah, « On va voir ce que ça va être ce truc ». Et de fil en aiguille, j'y suis resté 16 ans. C'est pas mal. Et puis j'ai commencé à écrire des petits textes pour moi, comme ça, chez moi. À l'époque, il n'y avait pas de blog, il n'y avait rien. Et de fil en aiguille, je rencontre quelqu'un qui est réalisateur, qui me dit « Je cherche quelqu'un pour m'écrire un court-métrage ». Et voilà. Et tout doucement, j'écris des courts-métrages, puis je trouve ça marrant, puis je réalise des courts-métrages. Tout ça, c'est un hobby au départ. Hein. Puis à un moment donné, c'est tellement devenu un boulot qu'il fallait faire un choix. Je pouvais plus vider mes congés tout le temps pour aller gérer les tournages. Donc du coup, voilà, 16 ans plus tard, je me dis « Allons-y, prenons ce risque-là ».
En 2014, Ismaël Saïdi est à Avignon pour un tout autre projet quand a lieu le déclic qui lui fera écrire la pièce « Djihad ».
Je vais sur Facebook et je vois cette photo de ce gars qui était avec moi en classe. Et en fait, sa photo de profil, c'était lui debout. À l'époque, encore une fois, les gens s'en vantaient. Donc, je veux dire, aujourd'hui, on s'en cacherait, mais les gens s'en vantaient. Il était photo de profil, debout, calage, drapeau de Daesh derrière lui, des potes, etc. Il était en Syrie. Et effectivement, je voyais plein de commentaires sous la photo de « Bravo mon frère, machin, etc. » Donc, ce gars, je me souviens du moment où, tout doucement, il suivait ce petit groupe. C'était un converti, d'ailleurs. Je me disais « Merde, comment j'ai fait, moi, pour passer à travers les mailles du filet et pas lui ?» Je commence à taper Syrie, départ, etc. À l'époque, vous ne risquiez pas encore d'attirer la CIA ou l'FBI en faisant ça. Mais donc, je cherche tout ça. Et là, je tombe sur une vidéo de Marine Le Pen, même moment, où on lui demande ce qu'elle pense des jeunes Français qui partent. On était au tout début, au départ. Et elle répond que ça ne lui pose pas de problème qu'ils partent tant qu'ils ne reviennent pas. Et ça fait un micmac dans ma tête. Je me dis, ah ouais, merde, quand même, tu vois, tous les deux... D'abord, lui qui part, et puis elle qui répond en écho à lui qui part, finalement, en fait. Parce que moi, ma vraie question, c'était pas qu'il revienne pas, c'est pourquoi il est parti. Et c'est ça que je comprenais pas de la part de Marine Le Pen, c'est pourquoi elle se pose pas la question. Et je me dis, j'écrirais bien un spectacle là-dessus, quoi. Ça commence comme ça, en juillet 2014, j'écris très vite. En août, c'était fini le texte. Je me dis, je dois le faire maintenant. Et donc, je cherche des théâtres, il n'y a personne qui en veut. Pensez bien qu'une comédie qui s'appelle Djihad, c'est un peu compliqué à fourguer au théâtre. Du coup, je trouve une MJC qui accepte de me laisser la salle 5 soirs. Le 26 décembre 2014, je crée Djihad. On n'a pas eu le droit de faire de la pub, pas le droit de mettre des affiches dans le métro. Et Djihad dans le métro, ça ne le fait pas non plus. Ça marche, on n'a pas fait de pub dehors, mais via Facebook et les réseaux sociaux, on remplit la salle. Et moi, je suis content, personne ne me tue à la fin du spectacle. 3 semaines plus tard, il y a Charlie Hebdo et... l'épicerie cachère et tout ça, et ça a mis une espèce de projecteur sur la pièce. Beaucoup de journalistes sont venus voir de quoi ça parlait, et voilà. De fil en aiguille, elle rentre avec plein de prévention, éducation nationale. La première année, c'était d'abord la Belgique, puis on arrive en France. Et Rebelote, ça a été un carton en France, et là, aujourd'hui, elle a été jouée, je crois, plus de 700 fois, et on est à près de 700 000 personnes qui l'ont vue. Elle a été traduite et jouée au Japon, en Italie, en Allemagne, en Hollande, en Maroc, en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est devenu une espèce de phénomène qui m'a dépassé, moi, le premier. Beaucoup de gens sont venus me dire après « Waouh, t'as été visionnaire avec ta pièce, machin ». Ah, pas du tout, j'ai été passéiste. Moi, j'ai écrit ce qui s'est passé il y a 25-26 ans. Alors, que ce soit encore d'actualité et que ce soit même brûlant en termes d'actualité, c'est pathétique. C'est qu'il y a un truc qui n'a pas été réglé, en fait. Après, vous savez, ce qui est encore plus pathétique, c'est que je tournais avec la pièce partout en France, beaucoup dans des prisons. En prison, j'en vois les mêmes gars. C'est le même profil, finalement. C'est le même profil que mes personnages, et c'est le même profil qu'il y a 25-26 ans. Si moi, je fais partie de ces gens qui ont pu être aidés, sauvés par la culture, c'est que c'est jouable. Donc du coup, moi, j'y crois. Ouais. L'accès à la culture pour tous, ça va des films, et surtout du théâtre, de la lecture, de la littérature, des tableaux, des musées. C'est... Que ce soit en Belgique ou en France, il y a une espèce de clivage où, effectivement, il y a des gens qui n'ont pas accès à la culture. Même si on est en 2020, que c'est censé être facile. Du coup, c'est pour ça qu'avec Jihad, nous, on va au fin fond de la France, là où très peu de gens vont, et on se débrouille pour trouver une salle municipale, un théâtre, et pour aménager un vrai théâtre pour que les ados, ou même les adultes, hein, de milieux ruraux ou d'autres milieux qui n'y ont pas été, puissent avoir accès au théâtre. Je suis très fier de ça. Il y a une double responsabilité, celle de l'État, du système, mais les communautés, quelles qu'elles soient, en l'occurrence ici musulmanes, ont une responsabilité aussi. De gérer la merde à l'intérieur, d'arrêter de créer le fossé entre les gens, d'arrêter, de, par exemple, si moi, si je dis à mon gosse « si tu manges du porc, tu vas en enfer », comment vous voulez que mon gosse y joue avec le vôtre ?
Claudia Prolongeau, cette pièce, Jihad, est maintenant enseignée dans des établissements en Belgique et en France ?
Oui, parce qu'elle fait partie d'un corpus dans lequel les enseignants français peuvent aller se servir, qui est défini par l'éducation nationale et qui comprend donc des textes qui peuvent être étudiés en classe.
La pièce Jihad a plus de 5 ans, elle a été créée, on le disait, juste avant l'attentat de Charlie Hebdo. Ismaël Saïdi continue depuis à travailler sur ce sujet.
Il continue déjà parce que cette pièce Jihad continue, elle, de faire le tour de la France et de la Belgique, et aussi parce qu'il a écrit une nouvelle pièce qui a commencé à tourner cette année, qui s'appelle GN. GN, c'est un mot très littéraire qu'on trouve dans la Bible et qui veut dire enfer, torture. Et dans cette pièce, on retrouve l'un des personnages de Jihad qui est cette fois dans une école juive et qui commet un attentat. Donc c'est une pièce sur l'antisémitisme, et à son tour c'est une pièce qui a beaucoup de succès et c'est une pièce qui tourne aussi et qui va à la rencontre des collégiens et des lycéens partout en France.
Merci Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi à 18h. Épisode produit par Clara Garnier-Amouroux, réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez dialoguer avec nous sur Twitter ou nous écrire codesource@leparisien.fr.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.